VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel de ce jeudi 29 décembre 2017. Au sommaire, Abdoulaye Idrissa Maïga jette l'éponge. Le Premier ministre malien a remis sa démission ce soir au président de la République. 12 morts dans un incendie qui a touché un immeuble de New York dans la nuit de jeudi à vendredi. Au Caire, en Égypte, 9 personnes ont perdu la vie dans l'attaque terroriste d'une église. 45 citoyens rwandais inculpés ce vendredi pour terrorisme en Ouganda. Leur arrestation date du 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Au Togo, les manifestations hostiles au régime de Faure Gnassingbé ont fait 12 blessés, dont 5 graves, dans les rues de Lomé. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Démission au Mali du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté au président Ibrahim Boubacar Keïta sa démission ainsi que celle des membres du gouvernement. Le président l'a accepté. Bagassi Koura.
Oui, selon un communiqué de la présidence dont VOA Afrique a eu une copie, dans sa lettre de démission, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour lui avoir donné l'opportunité de servir le Mali pendant cette exaltante période à des niveaux de responsabilité aussi importants. Le Premier ministre a donné l'assurance au président de sa disponibilité à servir le Mali. Abdoulaye Idrissa Maïga, 59 ans, cadre influent du RPM, le parti présidentiel, avait été nommé le 8 avril dernier au poste de Premier ministre. Il occupait auparavant le portefeuille de la Défense.
Retour ici aux États-Unis où la communauté guinéenne est sous le choc car plusieurs de ses membres vivaient dans l'immeuble du quartier new-yorkais du Bronx ravagé par un incendie hier soir. 4 enfants figurent parmi les 12 personnes mortes. Le point avec Solange Namoulissa.
La police a annoncé que 3 petites filles âgées de 1, 3 et 7 ans ainsi qu'un garçonnet de 7 ans ont perdu la vie dans cet incendie, le pire qu'ait connu la ville depuis plusieurs décennies. 8 adultes, 4 hommes et 4 femmes ont également trouvé la mort dans ce sinistre. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue et doit être déterminée par les enquêteurs. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. 10 personnes avaient été tuées en mars 2007 quand un feu avait ravagé une maison également dans le Bronx. Il s'agissait alors du pire incendie dans la ville depuis 1990, à l'exclusion des attentats du 11 septembre 2001.
La Chine s'est défendue vendredi de livrer clandestinement du pétrole à la Corée du Nord après les accusations de Donald Trump et l'arraisonnement par la Corée du Sud d'un navire hongkongais qui aurait transbordé des hydrocarbures sur un bâtiment de Pyongyang. Pris la main dans le sac, a lancé le président américain jeudi sur Twitter, se disant très déçu de voir la Chine permettre du pétrole d'entrer en Corée du Nord en violation des sanctions adoptées par l'ONU pour forcer Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Et puis l'armée israélienne a mené vendredi des raids aériens sur la bande de Gaza quelques heures après des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne vers le sud d'Israël. Des affrontements ont également eu lieu en Cisjordanie où les Palestiniens marquaient un nouveau jour de colère contre la décision unilatérale du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. 9 personnes ont été tuées vendredi au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par des djihadistes armés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Salwa Jafari.
Devant l'église de Saint-Mina de Hilouane, une foule en colère. L'attaque a été fulgurante.
3 hommes masqués à moto ont tiré sur l'un des agents de sécurité de l'église et un propriétaire de magasin. Et ils ont également tiré sur une femme traversant la rue.
Les images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'assaillant présumé, un homme barbu portant une veste. avec des munitions étendues sur le sol qui semblent être peu conscients alors qu'ils se faisaient menotter. Le ministère de l'Intérieur a en effet précisé dans un communiqué que l'assaillant, djihadiste recherché pour des attaques contre la police, avait été blessé et arrêté. L'homme était armé de fusils d'assaut, de munitions et d'une bombe qu'il avait l'intention de faire exploser dans l'église. Depuis décembre 2016, des dizaines de chrétiens, essentiellement des coptes, ont été tués dans des attaques contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï et ailleurs dans le pays.
Un geste de fair play au Libéria, le candidat malheureux du second tour de la présidentielle de mardi a concédé sa défaite. Joseph Boakai a félicité son adversaire, la légende du foot et sénateur George Weah, et a demandé à ses partisans de respecter le verdict des urnes. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le climat est toujours tendu en République démocratique du Congo. 12 militants de la LUCA ont été arrêtés vendredi lors d'une manifestation dans le centre du pays. Il revendique une transition sans Kabila. Le mandat de l'actuel président a expiré le 20 décembre 2016. Si la Constitution lui interdit de se représenter, elle l'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Un Érythréen de 31 ans est mort ce matin près de Calais, port français, qui fait face aux côtes britanniques, portant à 4 le nombre de décès de migrants dans cette région depuis le début de l'année. Il a été écrasé par la cargaison du camion dans lequel il était monté dans le but de rejoindre l'Angleterre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police ougandaise a annoncé aujourd'hui avoir inculpé pour terrorisme 45 citoyens rwandais. Ils ont été arrêtés le 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Le point avec Yakuba Wadreogo.
Le porte-parole de la police ougandaise, Emiliane Kayima, a indiqué que 43 Rwandais ont d'abord été arrêtés à la frontière avec la Tanzanie le 11 décembre dernier. Les deux autres, eux, ont été interpellés plus tard après une enquête plus poussée, selon M. Kayima, qui affirme qu'ils avaient tous de faux documents d'identification et de voyage. Le porte-parole de la police a précisé que l'enquête a été menée à son terme et les 45 Rwandais ont été interpellés de possession de faux documents. À cela s'ajoutent des accusations de terrorisme, leur intention pointant vers cela, ont affirmé les autorités policières ougandaises. D'après M. Kayima, les suspects sont détenus à la prison de Nalufenia, réservée aux personnes suspectées de terrorisme ou d'implication dans des groupes rebelles. Ces 45 Rwandais vivaient en Ouganda et soutiennent qu'ils se rendaient en mission évangélique en Tanzanie. Le Rwanda les accuse d'être des membres du Congrès national du Rwanda, parti d'opposition en exil, formé par d'anciens proches du président Paul Kagame, qui les qualifie de terroristes.
Le Burkina Faso dispose désormais de la télévision numérique terrestre, communément appelée TNT. Elle devient ainsi le premier pays d'Afrique de l'Ouest à basculer vers cette technologie qui permet de diffuser plusieurs chaînes en qualité numérique sur une seule fréquence. Elle a nécessité 45 milliards de francs CFA d'investissement et concerne une quinzaine de chaînes pour le moment. Au Togo, les manifestations qui se sont déroulées jeudi dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime de Faure Gnassingbé, ont fait 12 blessés, dont 5 graves, un bilan avancé par la coalition de l'opposition. Runanira Gaïma.
Les 5 blessés graves sont actuellement en soins intensifs, selon Antoine Folly, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition, lors d'une conférence de presse. Il a fait également état d'une quinzaine d'arrestations en marge de marches qui ont été dispersées jeudi soir par des tirs de gaz lacrymogènes. Les milliers de manifestants qui protestent depuis plus de 4 mois pour demander une limitation du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé n'ont pas suivi l'itinéraire prévu par les forces de l'ordre et se sont rendus à Dekon, dans le centre-ville, en fin de journée, malgré la mise en garde du ministre de la Sécurité, le colonel Yak Damehame, qui les avait invités à se conformer scrupuleusement au point d'accord convenu avec le gouvernement. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est à la tête du Togo depuis 2005, succédant son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Un projet de révision de la Constitution est en cours, mais la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels n'est pas rétroactive et autoriserait le président de se représenter en 2020, puis en 2025, ce que rejette l'opposition.
Le gouvernement de Macky Sall se félicite des résultats de sa lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Depuis 2012, le Sénégal a recouvré plus de 234 millions d'euros. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce vendredi. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est en effervescence en cette fin d'année. Entre forums économiques ou de tourisme, les concerts d'artistes locaux ou de vedettes internationales ne manquent pas. En deux semaines se sont succédés l'Américain Rick Ross, le Nigérian Davido, le Belgo-Congolais Damso, l'Américain d'origine sénégalaise Ekon. Fally Ipupa entend bien enjailler les scènes de Babi, la capitale, pour trois concerts accompagnés de son orchestre. L'occasion pour le chanteur congolais à la voix de velours de présenter son dernier album Tokos, sorti en juillet dernier avec le tube Eloko Oyo, que nous allons écouter et visualisé par plus de 30 millions de personnes sur YouTube. Il sera en concert à l'hôtel Golf Ivoire ce soir et au Sofitel demain soir. Voilà pour le journal. Vous écoutez LMS sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
Le cacao, le sucre et le café ont souffert en 2017 selon la revue annuelle des matières premières agricoles. Les récoltes abondantes ont pesé sur leurs cours. Ceux du sucre, qui avaient atteint en février leur plus haut niveau de l'année, ont reculé pour atteindre leur plus bas niveau au dernier trimestre de l'année. À la suite d'une saison record en Afrique de l'Ouest, favorisée par une météo clémente, le cacao est plombé par une récolte abondante. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a dû fixer des prix 40% plus bas que l'année précédente. Le Burkina Faso dispose depuis ce vendredi de la télévision numérique terrestre TNT. Le pays devient le premier pays d'Afrique de l'Ouest à basculer vers cette technologie permettant de diffuser plusieurs chaînes en qualité numérique sur une seule fréquence. Le lancement de la TNT a nécessité 45 milliards de francs CFA et concerne pour l'instant une quinzaine de chaînes avec un taux de couverture nationale de 70% du territoire burkinabé. La compagnie Apple s'est excusée jeudi d'avoir délibérément ralenti certains de ses iPhones pour compenser le vieillissement de leur batterie. Elle a également annoncé la baisse du coût de remplacement des batteries pour les iPhone 6 de 79 à 29 dollars. L'aveu d'Apple relance à nouveau le débat sur l'obsolescence programmée des appareils électroniques.
Et maintenant, place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Ika.
Plus que deux semaines avant le début du championnat d'Afrique des Nations, Maroc 2018, les pays qualifiés s'activent.
Tout à fait. Ekia, avant de s'envoler pour la Tunisie, où il doit effectuer un stage de 10 jours, le Rwanda a dévoilé sa liste de 23 pour la compétition au Maroc. Rayon Sport FC et l'APR sont les clubs les plus représentés. Deux matchs amicaux contre l'Algérie et le Soudan sont prévus lors du stage. De son côté, la Guinée se dit prête. Après un dernier match amical hier, l'APR Bangoura a son idée sur ses 23 pour aller au Maroc. Le Oroya, plus grand club du pays, aligne 7 joueurs dans cette liste. Au Burkina Faso, Drissa Traoré Malo, dit saboteur, a dévoilé aujourd'hui une liste de 25 étalons pour entamer la préparation du CHAN 2018 qui, on le rappelle, se déroulera au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018.
Cooper, Ronaldo, Zidane, bref, les lauréats des Globe Soccer Awards 2017 sont connus.
Rendez-vous incontournable de fin d'année. Depuis 8 éditions, les Globe Soccer Awards ont rassemblé le gratin du football mondial à Dubaï pour la cérémonie de récompense. Parmi les lauréats, le sélectionneur de l'Égypte, Hector Cooper, l'Argentin qui a qualifié les Pharaons pour la prochaine Coupe du Monde a été désigné meilleur entraîneur d'une équipe arabe. L'Arabie Saoudite a été reconnue meilleure équipe arabe de l'année, elle qui sera du rendez-vous en Russie.
Les prouesses du Real de Madrid ont encore été récompensées lors de ces Globe Soccer Awards 2017.
Eh oui, et qui a les Merengues auraient loué de leur superbe année avec 5 trophées, se taille la part du Lyon, le prix du meilleur club, celui du meilleur entraîneur pour Zinedine Zidane et meilleur joueur de l'année pour Cristiano Ronaldo. La Liga repart avec le prix du meilleur championnat du monde de l'année.
Tennis, pour terminer, Djokovic est forfait pour le tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi.
On en parlera
plus tard dans la prochaine édition.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ekia Badou avec vous, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au moins 12 personnes, dont 4 enfants, sont mortes hier dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dans le quartier du Bronx à New York. C'est le pire incendie depuis un quart de siècle, a affirmé le maire de New York. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques, comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. Pour témoignage, John Linden a joint à New York Alpha Issiaga Diallo, un habitant de New York.
Ça, c'est dans le Bronx. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'il y a eu un incendie comme ça mortel en 1990. On se souvient, il y a eu un incendie. 87 personnes avaient perdu la vie là-bas, à quelques mètres de là où l'incendie aujourd'hui encore s'est produit. C'est dans le Bronx. C'est Prospect Avenue et la 183e Street dans le Bronx. Il y a eu l'incendie hier vers 9h du soir et l'incendie n'a pas été maîtrisé très tôt. Il y a eu 12 morts, il y a 4 blessés graves et jusqu'à présent, l'auteur du crime n'a pas été jusqu'à présent arrêté, mais l'investigation continue. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas au courant d'une communauté, en tout cas africaine, touchée, mais pour le moment, c'est l'investigation. Vous savez que c'est la nuit, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a plus de 400 pompiers qui ont été déployés. Le feu a été difficilement maîtrisé, mais tout est dans l'ordre maintenant. Je crois que Bronx est en train de pleurer leur mort.
Alors, vous parlez de l'auteur, il s'agit donc d'un incendie criminel, c'est ça?
Non, pour le moment, on ne peut absolument rien prononcer. L'investigation est en cours. On aura en tout cas une situation claire, car même le maire, le gouverneur de New York, chacun a donné son point de vue. Aujourd'hui, le lieu est complètement bouclé. On ne peut pas s'y rendre. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai dit, Bronx est en train de pleurer les morts. 12 morts, 4 blessés graves et encore la Croix-Rouge est en train de donner de logements à ces, parce que c'est un grand building qui a pris feu et je crois que les gens sont en train d'être éparpillés partout dans le Bronx pour les reloger, car vous savez que c'est l'hivernage qui est là, il fait excessivement froid.
Alors, vous dites que l'incendie s'est produit dans le Bronx. Pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, c'est quel genre d'agglomération et l'immeuble en lui-même était-il vieux ou c'est nouvellement construit?
Pour le moment, on se méfie de donner des détails. Vous savez que la police américaine, elle est un peu stricte. Certains parlent qu'il y avait des défaillances. On ne sait pas ce qui va se révéler, mais l'essentiel qui est là, même si c'est un vieux building, vous savez qu'aux États-Unis, à chaque fois, on repart et on rentre toujours, on peine, on met tout dans des conditions. Mais quand même, il y avait eu quand même quelques soucis, en tout cas, quelque part, avant ce jour-là. Mais l'essentiel qui est là, la police de New York est en train de mener les enquêtes pour traquer ceux ou celui qui, en tout cas, l'auteur du crime, soit le propriétaire du building peut être un peu touché parce que compte tenu de la maintenance, mais on ne sait pas pour le moment.
Alpha Issiaga Diallo, un habitant de New York. Au Liberia, le candidat malheureux du second tour de la présidentielle de mardi a concédé sa défaite. Joseph Boakai a félicité son adversaire, la légende du foot et sénateur George Weah, et a demandé à ses partisans de respecter le verdict des urnes. Le vice-président Joseph Boakai, sortant, s'est exprimé dans un message solennel à la nation. Pour analyse, Eric Manyarakiza a joint à Monrovia un ancien journaliste de la radio nationale ELBC, Mohamed Kenneth.
Tous les Libériens ont accepté ce discours avec réconciliation, avec paix et avec bonheur. Parce que quand on regarde le passé du Libéria depuis décembre 1989 jusqu'en 2003, juste quelques jours avant le départ de M. Taylor, le Libéria a été un pays qui a été traumatisé. Il y a eu presque 250 000 morts. Donc la paix est revenue en 2005, il y a eu des élections. Et il y a maintenant 12 ans que vraiment on n'a pas eu de guerre. Donc, les gens craignaient que les partisans, les sympathisants du Parti de l'Unité, de M. Boakai, n'allaient pas accepter cette victoire. Mais heureusement, non, ce n'est pas le cas. Par la voix du vice-président M. Boakai, candidat à la présidence de l'UP, tout le monde est content, même les partisans de M. Ouya.
Est-ce que Jojo Ouya a déjà répondu à son discours
Bien sûr, il n'a pas encore répondu officiellement, mais il a fait un tweet. Il a fait un tweet dans lequel il dit que franchement, ça lui fait très bon au cœur que les Libériens, 62 ou 63% des Libériens l'ont élu président de la République et qu'il promet qu'il y aura un changement. Il a fait ce tweet-là il y a une ou deux heures, mais pas d'abord de discours officiel. Donc on attend. La nouvelle que je viens d'avoir il y a deux heures de temps, on dit qu'avant la tombée de la soirée, il va faire un discours. Donc nous attendons.
Est-ce que la victoire de Ouya a-t-elle surpris, surtout dans les milieux intellectuels?
Là, je dis non, non. La plupart des intellectuels, il y a eu plein d'intellectuels qui ont quitté les autres partis politiques pour rejoindre M. Ouya. Il y en a qui disaient, oh non, ce n'est pas un homme éduqué, ce n'est pas un homme instruit. Il est né dans un bidonville, il a grandi, c'est à cause du football qu'il est devenu très célèbre. Mais ces soi-disant intellectuels-là se sont rendus compte après qu'il faut accepter sa victoire. Donc la position de la plupart des intellectuels, c'est qu'ils sont tous d'accord de se mettre à disposition du nouveau président afin de transformer le Libéria.
Hélène Johnson-Sirleaf a-t-elle encore dit quelque chose?
Pas encore.
Et quelles leçons faut-il tirer de cette élection?
Il faut que les politiciens sachent maintenant que les gens, les Libériens ont les yeux grands ouverts. Ce n'est plus comme il y a 20 ans ou bien il y a 30 ans où les politiciens pouvaient dire n'importe quoi et puis passaient inaperçus, personne ne tenait compte de cela. Maintenant, je te dis que depuis les premières élections de 2005, suivies des élections de 2011, les deux élections sénatoriales spéciales 2014 et celles de 2010, et maintenant la récente élection-là, tout le monde sait que le droit de vote est très important et qu'à travers l'élection, on peut détrôner quelqu'un ou bien on peut le mettre sur place. Donc la vérité est que vraiment le peuple a su que c'est très très important de renforcer la démocratie à travers les élections. C'est la grande leçon que l'on peut tirer de ce qui s'est passé.
Mohamed Kenneth, ancien journaliste de la radio nationale ELBC au Libéria. Dans la région de Diffa, pour accompagner les victimes des atrocités de la secte Boko Haram, les jeunes adolescents notamment, des structures humanitaires ont mis en place des centres d'appui psychosocial. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, était dans un de ces centres.
Un peu à l'écart du site des réfugiés et déplacés de Kabale Ware Kazma, à une soixantaine de kilomètres de Diffa, sur un espace aménagé, un groupe de jeunes garçons joue au football. Un autre s'essaye au basketball alors que les jeunes filles chantent et dansent. Pas trop loin de cet espace, une bâche bleue recouvre des piquets en fer solide. C'est la salle des cours d'alphabétisation. Nous sommes au centre du dispositif d'appui psychosocial pour adolescents, Diapado, mis sur pied par l'ONG Kopi Niger. Moussa Nuhu Rachid est un des assistants projet à Kopi Niger.
Au niveau de ces espaces, il y a l'éducation non formelle. L'éducation non formelle consiste à aider l'enfant à travers des jeux, les accompagne aussi à les pratiquer au quotidien pour les aider à sortir de leur vécu suite aux crises auxquelles ils ont été confrontés. Devant eux, il y a eu des victimes. Donc parmi les enfants, il y en a qui ont gardé ces souvenirs sombres, qui les fait vraiment souvent revivre ces expériences, qui les met dans un état un peu qui n'est pas bien.
Chaque jour, depuis des mois, des animateurs se rendent au niveau de ces centres. L'animateur du jour de notre passage sur ce site est Inoussa Adamou Salifou.
À travers ce genre de jeu, l'enfant se retrouve. L'enfant vient, il joue avec ses amis, ses pères. Il comprend que malgré tout ce qui s'est passé, il peut vivre heureux. Il peut vivre au sein d'une société, au sein d'une communauté, avec des gens qui les accueillent bien, qui les permettent de s'épanouir. Et pratiquement depuis qu'on était venu, parce que c'est un nouveau site qu'on a débuté les activités en juin. Au début, quand on avait commencé, donc les enfants, ils étaient un peu réticents même aux activités, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Mais petit à petit, avec le temps, ils commencent à s'adapter. Et vraiment maintenant, comme vous le constatez, sur le terrain, tous les enfants sont heureux. Ils ont même pratiquement oublié ce qu'ils ont vécu.
Alors que les enfants de la tranche d'âge 9-14 ans chantent et jouent sur le terrain multisport, les 15-18 ans, eux, prennent des cours de kanuri, la langue locale, dans la salle d'à côté. Ceux qui ont suivi les cours d'alphabétisation le matin pratiquent les activités récréatives l'après-midi et vice-versa. Tout se passe au grand plaisir de ces enfants. Abdullah Razak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le phénomène de racket et de corruption sur les voies publiques persiste en RCA. Les usagers s'en plaignent. Ils accusent directement les groupes armés et les agents de l'État en service sur les barrages routiers. À Bangui, reportage de Freeman Sipila.
Aujourd'hui, circuler sur les axes routiers en dehors de la capitale Bangui devient de plus en plus agaçant. Les hommes armés tiennent des barrages routiers dans toutes les zones sous leur contrôle. Ils imposent des taxes et des frais aux usagers, ce qui leur fait des millions de dollars chaque année. Dans les régions contrôlées par le gouvernement central, les usagers accusent directement les agents de l'État de corruption et de racket. Ils pointent du doigt les services des eaux et forêts, les policiers, gendarmes et douaniers. Ici, sur la route de Boili, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bangui, il est 3 heures de l'après-midi ce jour-là. Le soleil se prépare à disparaître dans le nuage sombre, traversé d'un éclat doré. Les pousseurs de bois de chauffe reviennent à la queue leu-leu. Fatigués, épuisés par le volume du chargement de leur pousse-pousse, Jean-Claude, l'un d'entre eux, couvert de sueur, vient d'être racketté par un agent des eaux et forêts. Il est très irrité.
Il nous menace par voie quand on arrive au niveau du barrière. Ils nous imposent de déposer les wagons. Nous sommes en train de transporter pour chercher nos pains quotidiens. Pour moi, en tant qu'un être humain, l'enfant du pays, je demande à notre gouvernement de nous donner de main forte.
Ce phénomène est connu de tous sous l'appellation de formalité. Selon les passagers, donner l'argent est devenu aujourd'hui une règle lors des contrôles routiers. Au PK26 de la capitale, un véhicule de transport en commun vient de passer 2 heures devant une barrière. Le propriétaire explique.
Je suis même victime. Les douaniers m'ont perturbé beaucoup pour mes marchandises. Souvent, quand j'arrive au niveau de PK26, même j'ai mon TL, ils vont me demander les papiers. Parfois, là même, je leur présente mon papier, ils me demandent l'argent. C'est notre pays. Si on ne fait pas, on reste au quartier. Ils vont nous dire qu'on est des voyous, on est des rebelles, on est des balakas ou bien des séléka. Comment on va faire?
Le phénomène de racket est généralisé sur les axes routiers de la République centrafricaine. Adolphe, 33 ans, conducteur du taxi-moto, appelle les autorités à la responsabilité. Nous avons beaucoup souffert après ces événements qui ont secoué le pays. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer de vrais agents pour nous sécuriser. Ceux qui sont sur les barrières ne veulent comprendre personne. Ils nous demandent des papiers. Lorsque nous leur disons que nous avons perdu tous nos papiers dans les pillages ou l'incendie de nos maisons, ils ne veulent rien comprendre. Ils nous imposent de payer 500 francs pour les formalités avant de partir. Si tu n'en as pas, ils te maltraitent. Ils te demandent de rester debout sous le soleil. Nous sommes des pères de famille. Moi, je trouve cela anormal. La quasi-totalité des agents de l'État rencontrés sur les barrières n'ont pas souhaité s'exprimer, prétextant n'avoir pas l'autorisation de leur hiérarchie. Freeman Sipila, Bangui, VOA.
La chose là.
Je vous le disais en première partie, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, appelée également Babi, va vibrer pendant 3 soirs au rythme des concerts de Fally Ipupa, l'un des artistes les plus populaires de l'Afrique, artiste congolais bien sûr. Et là, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumani, à la console, Nelson Lopez, à la présentation, Ekiabadou. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellent week-end à tous.